fondation et je n'avais pas fait les rénovations. Donc, je veux faire de l'espace dans le garage, puis après ça, aller tranquillement au sous-sol et finir par remonter mon bureau de toute pièce dans le sous-sol et puis pouvoir faire les diffusions depuis mon bureau au sous-sol. Donc, et à ce moment-là, il n'y aura bien entendu pas de problème avec de la clarté trop lumineuse à l'arrière de moi. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Bonjour Didier. Donc je ne sais pas si elle nous regardera en différé. Parfois elle le fait. Bonjour à la belle-mère une fois de plus. Parfois elle le fait, elle nous écoute en différé. Lorsqu'elle était en télétravail, elle nous regardait régulièrement. Mais là, elle est en différé, je crois. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mili Diaz. Donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, Mili. J'espère que tu auras une belle et bonne journée aujourd'hui. Bonjour à la sœur Teresa. D'accord, alors on va commencer, on va prier. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de plonger nos regards dans ta parole et de trouver en son sein tout ce qu'on a besoin. Tu nous abreuves, tu nous nourris, tu nous enseignes, tu nous éduques, tu nous transformes à travers cette parole. Alors je prie Seigneur que celle-ci puisse trouver un terrain adéquatement préparé pour la recevoir et un terrain dans lequel elle peut s'enraciner, croître et porter éventuellement un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci d'étendre ta main, de nous bénir et de nous toucher. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on lit notre verset de cette semaine. Dans Josué au chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je répète le verset. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors que Dieu bénisse sa parole. On est rendu à la section de phrase qui nous dit cette deuxième proposition, cette deuxième option qui s'offre à nous si on ne trouve pas bon de servir l'Éternel, c'est une fausse option, bien entendu, parce que nullement il n'est dans la pensée de Josué que ce soit une bonne option. C'est simplement que nous avons des choix à faire, qu'Israël avait des choix à faire et que nous aussi, par conséquent, nous avons des choix à faire. Et un de ces choix, après avoir vu hier tout ce qui était la tradition, tout ce qui était l'héritage qui nous arrivait de nos pères. On voit aujourd'hui cette nouvelle section qui va comme suit. Où les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Où les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Hier, on a vu effectivement tout ce qui était le passé. Aujourd'hui, les Amoréens vont revêtir pour nous, dans cet enseignement, quelques points intéressants notamment. J'aurais 6 points à mentionner, trois qui étaient aussi hier mentionnés, mais qu'on va rafraîchir ce matin, parce qu'il est important de se poser encore là de bonnes questions. Lorsqu'on parle des Amoréens, on parle tout d'abord du peuple qui habitait Canaan. Donc, d'un des peuples qui était dans l'est du pays de Canaan, du territoire de Canaan, un des peuples que Israël devait évacuer ou devait faire sortir. En fait, c'est un territoire dans lequel chacun des peuples devait soit être délogé totalement et repoussé à l'extérieur des frontières, soit exterminé. Et dans le cas des Amoréens, on se rend compte en lisant les Écritures, juste un peu avant la conquête, qu'il va y avoir des pactes qui vont être faits entre Israël et les Amoréens, qui font en sorte que les Amoréens ne vont jamais quitter le territoire initialement prévu pour Israël. Alors que Dieu avait demandé effectivement de nettoyer complètement le territoire. Et c'est souvent une problématique qui nous revient à nous aussi. On vient à Christ, il y a des choses à nettoyer, mais malheureusement, on garde certaines de ces choses en nous. Des associations, des pratiques, des façons de vivre qu'on devait abandonner. Et malheureusement, même si on est venu à Christ, même s'il y a eu ce processus de sanctification, ce grand nettoyage spirituel, grand nettoyage de notre vie, il semble qu'on garde des vestiges du passé en nous, des vestiges de nos pratiques qui étaient nôtres avant la traversée du Jourdain, avant qu'on ne passe par la nouvelle naissance et qu'on les garde chez nous, alors que nous aurions dû effectivement les éliminer de notre vie. Et ce qu'on va se rendre compte dans l'histoire d'Israël, c'est que de ne pas avoir expulsé, de ne pas avoir exterminé ce peuple-là, va se retourner contre Israël plus tard. Très souvent, les guerres qu'il va y avoir par la suite, je sais que dans le temps de David, les plus célèbres vont être les Philistins, mais les Amoréens vont aussi revenir régulièrement, cycliquement, dans l'histoire d'Israël comme des gens avec qui Israël va être en opposition et en guerre. Et Dieu prévoyait ça à l'avance. Voilà pourquoi le territoire même de Canaan devait être saisi, accaparé et donné uniquement, exclusivement à Israël et bien entendu à l'Éternel. Et nous, souvent, lorsqu'on laisse des choses dans notre vie qu'on ne sanctifie pas, des choses qu'on ne coupe pas de notre vie, avec le temps, ça vient nous rattraper. Il y a des péchés qu'on ne confesse pas, il y a des péchés qu'on maintient cachés dans notre vie. Et à un moment donné, au temps le plus inadéquat, le diable l'utilise à notre encontre. Soit c'est des choses qu'on pratique dans le secret, dans le privé, d'une façon cachée, et à un moment donné, la chose éclate à la lumière de tous. Soit c'est des choses qu'on a maintenues dans notre vie, pour lesquelles c'est correct aux yeux de la population contemporaine, mais que Dieu trouve comme abominable ou que Dieu trouve comme péché. Et éventuellement, ça procure une occasion de chute, une occasion de se casser la figure spirituellement. Donc pour nous, il est important, en venant à Christ, et peut-être même si ça fait des années qu'on est dans le Seigneur, de s'arrêter un instant et de demander, Seigneur, qu'est-ce que j'ai laissé de ma vie passée dans ma vie présente? Quelles sont ces pratiques, quelles sont ces choses, quels sont ces domaines peut-être que tu aurais voulu couper de mon existence, mais que j'ai maintenu, même si cela ne te glorifie pas, même si cela est quelque chose que tu désapprouves. Peut-être que la société contemporaine pourrait faire en sorte que l'opinion publique face à cette chose ne soit pas répréhensible, mais si toi, Seigneur, tu me dis que c'est péché, alors j'ai une décision à prendre. Est-ce que je garde cette chose dans ma vie ou effectivement je la laisse perdue ou je la coupe? Est-ce que je la maintiens présente avec le risque qu'éventuellement, oui, cette chose-là se retourne contre moi et mène à ma perte, ou je prends la décision de me sanctifier, de me purifier, de laver mes mains, de laver mes yeux, de laver mon cœur, afin d'être agréable devant Dieu. Donc les Amoréens, la première pensée qu'on doit avoir, c'est que ils sont restés à l'intérieur de Canaan. Par la suite, se sont avérés un piège même pour Israël et une occasion de chute régulièrement dans l'histoire d'Israël qui a suivi à travers les décennies et les siècles. Donc pour nous, savoir aussi prendre le temps de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'exclue de ma vie? Quelles sont les choses que tu veux voir couper, retrancher de mon existence? La deuxième notion qu'on pourrait ressortir de la question des Amoréens vient de l'explication même du terme amoréen. Amoréen veut dire discoureur, parleur, palabreur. Cette image de celui qui discute beaucoup pour rien. Cette image de celui qui amène des pensées qui ne sont pas de Dieu, des philosophies qui ne sont pas de Dieu. Et ici, le danger des Amoréens, c'est que Israël est confronté à une nouvelle philosophie de vie, à de nouvelles pratiques, à de nouveaux us, à de nouvelles coutumes, à des nouvelles façons d'interpréter la vie de tous les jours qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la parole de Dieu, voire même qui régulièrement vont s'opposer à la parole de Dieu. Alors le danger avec les Amoréens, c'est d'accepter, de prendre pour nous, d'adopter les philosophies de la population ambiante. Il y a différentes choses qu'on voit à travers les décennies, à travers les siècles, qui étaient autrefois clairement identifiées comme mauvais, clairement identifiées comme péché. Et plus le temps passe, plus les siècles passent, plus les années passent, voire même les mois passent dans cette société contemporaine, et plus on voit les choses se normaliser. Plus ce qui était péché devient normal, voire même devient bien aux yeux du monde. Et pour nous, ça doit être un avertissement. Savoir que les philosophies, les pensées sociales, sociologiques, les systèmes de valeurs de cette société contemporaine se doivent d'être mis en parallèle avec la parole de Dieu. Et s'il y a divergence, ce qui prime, c'est ce que je vais choisir. Alors, est-ce que je fais primer la philosophie de Dieu? Est-ce que je fais primer la pensée de Dieu? Est-ce que je fais primer les conseils de Dieu? Est-ce que je fais primer les commandements de Dieu ou je fais primer la pensée de cette société contemporaine qui ne va que de mal en pis et qui ne progresse que constamment dans cette voie du péché? Alors, il est important pour nous aussi de comprendre qu'un des pièges dans lesquels on tombe régulièrement, c'est dans l'adoption, effectivement, des philosophies contemporaines. On arrive dans un nouveau territoire comme Israël, et ça, c'est notre troisième point, et les Amoréens deviennent plus ou moins le premier peuple avec qui Israël va cohabiter depuis sa sortie d'Égypte. Israël est sorti d'Égypte, ils ont erré pendant 40 ans. Donc, pendant 40 ans, ils ont vécu profondément en autarcie, dans un cercle fermé entre eux et l'Éternel. C'était un temps aussi où Dieu faisait le nettoyage dans le peuple. Il y a deux générations qui vont se perdre, qui vont mourir dans le désert, avant que cette troisième génération qui a vu le jour, qui est née dans le temps d'errance dans le désert, dans le temps de pèlerinage dans le désert, c'est cette génération qui va s'emparer de Canaan, avec comme exception simplement Caleb et Josué, qui seront les deux seuls qui auront connu l'ensemble du parcours dans le désert et qui auront connu même la sortie d'Égypte. Mais à part ces deux individus, l'ensemble de ceux qui vont rentrer dans Israël, c'est une nouvelle tribu, c'est un nouveau peuple, très jeunes, en bas de 40 ans, et ils arrivent et sont confrontés avec tous les us et toutes les pratiques qui sont offertes par les Amoréens. Et pour eux, c'est vraiment le choc de la nouveauté, voire l'attrait de la nouveauté et de la différence. Et très souvent, aussi, certains d'entre nous vont tomber dans des pratiques, vont tomber dans des associations avec le diable, tout simplement parce que ce qui nous est présenté à cette facette de nouveauté, à cet aspect de nouveauté et de différence. Et on s'entend que très régulièrement, et ça c'est un piège pour la jeune génération, très habituellement, très régulièrement plutôt, on veut se distancer des générations précédentes. On veut laisser notre marque. On veut avoir notre propre identité, très juvénile, très fraîche, très récente, qui n'est pas une copie conforme de ce qui s'est fait par le passé. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on amène des nouveautés parmi nous qui ne sont pas nécessairement positives et qui ne sont pas nécessairement pour Dieu. Et on s'associe, on se met à aimer des choses tout simplement parce qu'elles sont différentes. Pourquoi? Parce qu'on veut être nous-mêmes différents. Alors c'est un piège dans lequel le diable nous fait aussi tomber régulièrement. Et dans cette cohabitation avec le monde, puisque la Bible nous dit, et Jésus va dire à ses disciples, je ne vous ai pas retiré du monde, je vous ai gardé dans le monde. Et il va dire, dans sa prière sacerdotale, il va dire, Père, je ne te demande pas de les sortir du monde, mais je te demande de les garder, de les préserver dans le monde. Donc, d'assurer leur sécurité au sein même du monde. Et pourquoi Jésus nous veut-il dans le monde? Tout simplement parce que si l'Église se retire du monde, l'Église ne pourra pas gagner le monde pour Christ. C'est aussi simple que ça. Et nous ne vivons pas en autarcie. Nous vivons à l'intérieur du monde sans être du monde. Nous vivons à l'intérieur de cette génération-ci sans être de cette génération-ci. Et faisons attention de ne pas adopter certaines choses, certaines pratiques, certaines valeurs, certaines pensées qui sont propres à cette génération-ci, mais qui ne sont pas approuvées par Dieu. Et ça, c'était le troisième danger des Amoréens. Donc le premier, c'était le fait que Dieu avait dit de déloger tous les peuples habitant Canaan et que par la suite, comme Israël avait signé un pacte de non-confrontation, un pacte de paix avec les Amoréens, ce pacte de paix est venu, et c'est le cas de le dire, hanter Israël à plusieurs reprises avec les décennies et les siècles qui ont passé. Deuxièmement, les Amoréens comme pensée de discoureurs, de philosophie. Alors ne pas faire rentrer les philosophies de ce temps moderne dans l'Église et dans la parole de Dieu. Ne pas essayer de cadrer la Bible avec la pensée philosophique de cette époque. Ne pas essayer de détourner la parole de Dieu pour lui faire dire un peu n'importe quoi. Lorsque Dieu a déclaré dans le passé qu'une chose était péché, elle est encore péché aujourd'hui. Quoi qu'en dise la société contemporaine. Trois points maintenant qu'on a, et puis le dernier point, bien entendu, Israël, qui vient à cohabiter avec Canaan et qui est confronté avec des nouveautés, avec de l'innovation et avec ce désir probable de vouloir eux aussi être nouveaux et innover en soi. C'est un peu ce qui s'est passé lorsque Israël a demandé un roi en disant on veut être comme tous les autres peuples. Depuis la sortie d'Égypte, ils étaient tout à fait sous la protection de Dieu, ils étaient tout à fait adéquats en n'ayant pour roi que l'Éternel, mais ils ont dit on veut un roi comme tous les autres peuples. On a été confronté avec cette idée de monarchie. On a aimé que les autres peuples aient un roi, nous en voulons un aussi. Et ce roi-là n'a pas nécessairement toujours été une bonne chose pour Israël. Pensons juste simplement au premier roi de l'histoire d'Israël, qui était Saül et qui n'a pas nécessairement été une bonne influence sur Israël. Trois points maintenant qu'on ramène d'hier, mais qu'on adapte à la question des Amoréens. Lorsqu'on parle de ces dieux des Amoréens, Dieu, c'est le terme Elohim, qui est à l'occasion utilisé pour Dieu, l'Éternel, bien entendu, mais qui, dans un contexte comme celui-ci, va nous parler de déité, de divinité autre que l'Éternel. Et on va avoir trois synonymes qu'on a utilisés hier, qu'on va encore mentionner aujourd'hui, idée de rafraîchir nos pensées par rapport à hier et d'ancrer davantage ces notions en nous. Alors, le premier synonyme pour Elohim, pour les dieux des Amoréens, les dieux, c'est le terme dirigeant. Donc, faire attention à ceux qui dirigent notre vie. Les dieux des Amoréens sont devenus les dirigeants d'Israël lorsqu'Israël a décidé de servir ces dieux-là. Lorsque Josué dit au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Choisissez si vous servirez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, alors choisissez où vous servez les dieux de vos pères de l'autre côté du fleuve, où vous servez les dieux avec lesquels vous êtes confrontés maintenant en ce qui a trait aux dieux des Amoréens. Et ces dieux-là, c'est un des synonymes, était le terme dirigeant. Ces dieux des Amoréens allaient venir dans l'avenir être des dirigeants sur Israël. Et ce faisant, on brisait un des commandements principaux, un des premiers commandements qui était donné à Israël, qui était d'avoir l'Éternel des armées, Jéhovah, comme étant le seul et l'unique et l'exclusif Dieu pour eux. Et ce faisant, la parole de Dieu nous parle d'un Dieu qui est exclusif. Lorsqu'on se dit chrétien et lorsqu'on se dit enfant de la parole de Dieu, alors on doit comprendre que ce Dieu-là nous dit qu'il n'en existe aucun autre. Cette parole, ce texte biblique, ce texte parole de Dieu, nous dit qu'il n'y a aucun autre Dieu. Jéhovah veut dire celui qui est et celui qui existe. Sous-entendant donc que les autres ne sont pas et que les autres n'existent pas. Alors lorsque moi je m'associe au Dieu amoréen, je suis en train de briser cette demande de Dieu de l'avoir lui seul comme exclusif Dieu. Je suis en train de contester la parole de Dieu. Et voilà pourquoi la pensée biblique ne peut pas entrer en association avec d'autres textes que certaines religions, certains courants de pensée vont déclarer comme étant saints. La parole de Dieu nous dit que ce Dieu-là, Jéhovah, l'Éternel des armées, est un Dieu exclusif et qu'il veut, dans les pensées, dans le culte, dans l'adoration et dans l'attachement de son peuple envers lui, il veut une totale exclusivité. Si nous avons d'autres dirigeants dans notre vie que l'Éternel, il cède la place. Si nous le confrontons avec un autre leadership que le sien, il va laisser la place à ce leadership. Il ne rentre pas en compétition avec qui que ce soit. Soit nous acceptons qu'il est effectivement le maître absolu de notre vie, et soit nous acceptons l'exclusivité qu'il veut dans nos vies, soit nous l'excluons de notre vie. Le deuxième point, synonyme toujours de Elohim, les dieux, c'est le juge. Donc il y avait tout d'abord une connotation, un synonyme avec dirigeant, puis avec juge. Et lorsqu'on parle de juge, comme je le rappelais hier, on parle donc de celui qui fait un système de valeurs, celui qui établit un système de valeurs en disant ceci est bien, ceci est mauvais, ceci est acceptable, ceci est inacceptable, ceci est approuvé, ceci est rejeté. Lorsque nous permettons au Dieu des Amoréens de contrôler notre vie, d'être les dirigeants de notre vie, lorsque nous remettons notre existence au Dieu des Amoréens, ou lorsque nous voulons partager le leadership de notre vie entre Dieu et le Dieu des Amoréens, ce qui se passe, c'est qu'on a deux systèmes de valeurs qui rentrent en conflit. Et à un moment donné, on doit donc choisir qui prône sur nous. Sera-ce l'Éternel ou sera-ce le Dieu quelconque des Amoréens? Donc les valeurs, les préceptes, les commandements de Dieu se faisant sont remis en question. Tout à l'heure, c'était l'exclusivité de Dieu qui était remise en question. Et là, on parle de toute la sagesse, de toute la pensée, de tous les préceptes, de tous les commandements de Dieu qui se voient remis en question. Si ce n'est pas d'une façon claire et précise, au début de notre marche, éventuellement des conflits. Pardonnez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Éventuellement, dans notre parcours, il va y avoir un moment où il va y avoir un clash entre la pensée de Dieu et la pensée qui est prônée par les dieux des Amoréens. Et dernier point pour aujourd'hui, on va parler de Elohim comme étant aussi des synonymes pour les anges et les divinités. Après avoir permis aux dieux des Amoréens d'être en compétition avec Dieu, de remettre en question son exclusivité, de remettre en question les valeurs qui sont prônées par Dieu et par sa parole, ce qui se passe aussi éventuellement, c'est que lorsque j'adopte les dieux des Amoréens, je permets dans le culte à l'Éternel d'introduire des choses qui étaient initialement vouées aux idoles. Et voilà pourquoi un juif ne pouvait pas manger une viande qui était présentée à un idole. Voilà pourquoi il y avait certaines pratiques dans l'alimentation, dans le système de valeurs, dans les pratiques de tous les jours auxquelles les juifs ne devaient pas abonder ou dans lesquelles les juifs ne devaient pas abonder. Pourquoi? Parce que c'était des pratiques qui étaient initialement introduites suite à des cultes païens, à des cultes idolâtres. Et dans notre vie, on doit retourner à ce que nous dit la parole de Dieu. Dans notre culte personnel, très régulièrement, on va introduire des choses initialement vouées aux idoles. Il y a deux semaines, lorsque le pasteur André prêchait, il parlait d'un jeune homme qu'il a rencontré et il devait éclaircir certains points avec lui, notamment dans son temps de dévotion personnelle. Il disait, lorsque je rentre dans la présence de Dieu, lorsque je veux passer un bon moment avec le Seigneur, je fais le vide. Et faire le vide, pour lui, c'était un peu comme cet état méditatif dans lequel la méditation transcendantale et puis d'autres pratiques ésotériques nous amènent à avoir. La Bible ne dit pas de faire le vide, mais la Bible nous dit de nous édifier nous-mêmes par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques. Donc, de meubler notre pensée et non pas de la vider. Mais quelqu'un peut effectivement regarder les pratiques qui se font dans les cultes orientaux, dans les cultes idolâtres qu'il peut y avoir encore aujourd'hui, et adapter ces pratiques-là à leur temps de dévotion personnelle. Donc, je peux tout à fait m'imaginer que quelqu'un qui n'est pas fondé dans les Écritures puisse dire « Ok, moi, je vais me mettre accroupi à quatre pattes et puis je vais tout simplement vider mon esprit. Je vais me mettre dans quelque autre posture en faisant tel ou tel simagré avec mes mains, avec mes bras, avec mes jambes et tout simplement pour aider une certaine aération de mon être » pour permettre à l'Esprit de Dieu d'entrer. L'Esprit de Dieu se manifeste à travers la présence de sa parole. La parole de Dieu doit être présente dans notre vie. Alors faire le vide à l'intérieur, ce n'est pas se nourrir de la parole de Dieu, ce n'est pas se nourrir et s'édifier par des psaumes, par des cantiques et par des chants. Notre vie ne devrait pas être une vie où on se vide de tout, mais une vie dans laquelle on se remplit de la parole de Dieu. Et ça, c'est tout simplement un exemple des choses qu'on pourrait adopter du monde séculier, du monde contemporain et faire rentrer dans l'Église si on n'y fait pas attention. Donc, nous faisons attention à ce que notre culte ne soit pas façonné par les pratiques des Amoréens, mais que notre culte soit façonné par ce que nous dit la parole de Dieu. Nourrissons-nous, meublons tout espace de notre vie à travers la parole de Dieu. Et pourquoi c'est tellement important? Bien, c'est tellement important que la parole soit partout dans notre existence et partout dans nos pensées, parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que que jaillit les paroles. Alors si mon cœur est vide, il ne jaillira rien. Mais si mon cœur est rempli de la parole de Dieu, au moment où j'ouvre la bouche, c'est effectivement à ce moment-là où la parole même va se mettre à jaillir de ma vie. La Bible nous dit de prier sans cesse. Et prier sans cesse veut donc dire que je ne suis pas en train de faire le vide, mais que je suis en train de m'adresser à Dieu, de converser avec Dieu, de parler avec Dieu. Et vous en conviendrez avec moi, si vous voulez avoir une discussion sensée avec quelqu'un, vous devez réfléchir à ce que vous dites et vous devez être conscient des paroles que vous dites. Voilà pourquoi la prière est aussi une chose réfléchie, une chose où on pèse les mots. Je me rappellerai toujours de cette fameuse prière que j'ai faite le matin suivant le diagnostic de ma maladie. Et j'ai tardé pendant des heures et des heures, en fait une douzaine d'heures, avant de faire cette première prière devant Dieu, parce que je voulais être conscient des mots que j'allais prononcer. Je voulais être certain des mots que j'allais prononcer. Alors c'est vrai qu'il y a des occasions à travers lesquelles il y a des prières tout à fait marquantes dans notre existence, dans lesquelles on va soupeser chacun des mots. Mais c'est peut-être aussi une bonne habitude à prendre. Il y a des gens qui prient et puis qui se laissent tout simplement aller, puis ça a l'air des mitraillettes là, qui tirent, qui tirent, qui tirent, qui tirent, puis à un moment donné, ils sont vides. Mais parfois, à tirer trop rapidement comme cela, avec une séquence qui est trop rapide, et c'est simplement une petite aparté que je fais et un petit conseil que je donne, peut-être qu'il serait bon de ralentir le débit et tout simplement réfléchir aux mots qu'on est en train de prononcer. Je m'adresse à Dieu, je m'adresse au Seigneur des Seigneurs, je m'adresse à la personne la plus importante qui soit. Est-ce que ça ne serait pas aussi primordial de réfléchir aux mots que je prononce devant elle? Est-ce que ça ne serait pas primordial que, et quand je parle de elle, je parle de la personne, donc Dieu, et Dieu n'est pas une femme, là, juste pour qu'on n'étire pas ce que je dis vers des divagations. Donc, est-ce que ce n'est pas important qu'on s'arrête tout simplement pour réfléchir? Quels sont les mots que je prononce pendant ma prière? Peut-être que ça va suggérer chez toi que tu ralentisses ton débit. Peut-être que ça veut dire que ça va te demander un peu plus de contrôle, un peu plus de maîtrise de soi pour bien analyser ce que tu es en train de dire. Es-tu vraiment en train de dire que l'Éternel est le roi dans ta vie? Es-tu convaincu de ce que ça veut dire? Comprends-tu ce que ça signifie que l'Éternel soit roi et Seigneur dans ta vie? Alors parfois, cet exercice de ralentir notre débit, cet exercice de prendre un rythme plus lent, plus posé nous permet effectivement de réfléchir plus adéquatement, de façon plus appropriée à la prière que nous élevons et non pas de tomber dans des élucubrations qui viennent tout simplement du fait qu'on n'a pas été maître de soi. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Je rappelle les 6 points qu'on n'hésite pas premièrement à nous séparer des dieux des Amoréens, à retrancher de notre vie ce qui n'est pas de Dieu, parce que ça pourrait venir se retourner contre nous dans l'avenir, qu'on ne tombe pas dans les philosophies, les palabres, les discours de cette génération-ci, mais qu'on sache baser notre vie sur la parole de Dieu et non pas sur la philosophie ambiante, qu'on puisse aussi ne pas tomber dans le piège de rechercher tout simplement une différence avec antan, avec autrefois, avec ceux qui nous ont précédés et d'aimer la nouveauté juste parce que c'est nouveau. C'est pas parce que c'est nouveau que Dieu l'approuve. Donc, qu'on puisse effectivement être vigilant là-dessus. Qu'on puisse comprendre que si on permet au Dieu des Amoréens de demeurer dans nos vies, c'est eux qui vont finir par diriger parce que Dieu ne partagera pas sa place. Donc, notre Dieu demande l'exclusivité de notre foi, l'exclusivité de notre attachement. Si on laisse les dieux des Amoréens perdurer dans notre vie, le système de valeurs de la Bible va être remis en question. Le système de valeurs que prône l'Éternel va être remis en question. Et enfin, si on laisse les dieux des Amoréens dans notre vie, notre culte aussi va être influencé par ces pratiques qui ne sont pas de Dieu, mais qu'on va spiritualiser, qu'on va sanctifier entre très gros guillemets et très mauvais guillemets pour les faire cadrer dans un contexte chrétien alors qu'ils n'ont aucun rapport, aucun lien avec la parole de Dieu. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier et après ça, on va saluer, voir s'il y a quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tes avertissements et tes conseils pour moi, mais aussi Seigneur pour ma sœur et pour mon frère. On te demande Seigneur d'arroser cette parole par ton esprit pour qu'elle puisse croître et porter un fruit Seigneur qui t'est propice et agréable et profitable à l'avancement de ton royaume. Seigneur, n'aie pas peur de nous dire ce que nous avons à entendre. N'hésite pas à nous confronter avec la véracité de notre état et avec, Seigneur, ce que ta parole dit de nous, que nous puissions, Seigneur, entendre et recevoir favorablement ces remontrances qu'à l'occasion tu veux nous faire, ces mises à niveau que tu veux opérer chez nous, ces conseils, ces préceptes, voire même ces reproches, Seigneur, que parfois tu veux nous donner. Nous voulons, Seigneur, demeurer à l'écoute de ta voix pour nous assurer de mener nos vies, non pas influencées par les pratiques de cette génération-ci, par les pratiques de ce monde-ci, mais baser nos vies sur la vérité seule et unique de ta parole. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis-moi aujourd'hui dans chacun de nos temps de réflexion personnelle, même là où on sera au travail, que tu puisses nous parler. Et puis qu'on soit aussi des ouvriers et des outils entre tes mains. Nous t'avons prié pour ta gloire et ton honneur, Jésus. Amen. Alors, voyons qui s'est connecté depuis tout à l'heure. Je vais certainement en rater, mais on va saluer quelques personnes qui semblent s'être jointes à nous depuis tout à l'heure. Je remonte un peu. Donc, la dernière personne que j'ai saluée, je pense que c'était la sœur Teresa. Bonjour à Jimmy, que Dieu te bénisse. Bonjour à Danica et à la petite famille. Je ne me rappelle pas si j'ai salué Rosie. Je crois que je l'ai salué. Oui, je l'ai salué, puisqu'on a parlé du temps en Alsace et à Montréal. Donc, rebonjour Rosie. Bonjour à Maggie, à Eduardo. Bonjour à Yolène. Bonjour au frère Frédéric Yamehogo et à son épouse. Que Dieu vous bénisse, cher bien-aimé. Bonjour à Farley et à sa maman, la sœur Marie-Andrée. Qui d'autre? Bonjour à Charlotte. Je ne sais pas si je vous avais salué tout à l'heure, mais rebonjour. Bonjour à Myriam et à Donald. Bonjour à Andrés et Samantha. Bonjour à la sœur Anna Ruiz, au frère Carlos. Et puis, qui d'autre? Bonjour à la sœur Nancy, que j'ai vu défiler, le nom que j'ai vu défiler aussi, que Dieu vous bénisse. Alors voilà, c'est toutes les personnes que j'arrivais à voir. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée. On se retrouve demain avec la dernière phrase qui est très importante dans ma propre vie. Et on vous expliquera pourquoi demain, donc vendredi, demain, on va étudier, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, et je vous dirai où cette phrase est devenue importante, malgré moi, va-t-on dire, dans ma propre vie. Donc, on se retrouve demain, même poste, même heure, et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà, bonne journée à tous, et merci d'avoir été là ce matin. Au revoir tout le monde.